Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 8h16, le petit déjeuner politique, c'est ce matin, c'est Nathalie Loiseau, députée européenne, membre de la délégation de Renaissance et présidente de la commission sécurité-défense du Parlement européen.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Au programme, bien sûr, la guerre qui se poursuit plus que jamais en Ukraine, les sanctions à l'égard de la Russie, mais également la campagne présidentielle en France et Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas officiellement candidat à sa réélection. Mais d'abord, c'était l'image forte hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a été ovationné par le Parlement européen. Il a pris la parole en visioconférence. Vous étiez dans l'hémicycle hier, justement. Qu'est-ce que vous retenez de son intervention et de ce moment ?
Oh ben c'est l'incarnation du courage. Ce qu'il nous dit, c'est « je me bats pour votre liberté ». Il ne faut jamais oublier que Kiev, c'est à moins de 3 heures d'avion de Paris. Ils sont aujourd'hui persécutés, envahis, bombardés, parce que depuis 2014, depuis la révolution de Maïdan, ils se sont tournés vers l'Europe plutôt que de se tourner vers Moscou. Donc c'était évidemment très émouvant, évidemment ça suscite un immense respect, et la quasi-totalité du Parlement européen, sauf quelques-uns, et ça je le regrette parce que certains sont français,
ils
sont en soutien.
Je
ne vise pas, mais ils ont choisi les députés européens qui ont rejoint Éric Zemmour et Thierry Mariani du Rassemblement National, ont voté contre le texte que nous avons adopté quasiment à l'unanimité, sauf eux, consistant à soutenir l'Ukraine.
Pour revenir au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a lancé aussi un appel, de nouveau, ne nous lâchez pas, demandez à rejoindre au plus tôt, sans délai, l'Union européenne, avec l'envie d'une intégration de son pays très rapide à l'Union européenne. Est-ce que c'est possible déjà, Nathalie Loiseau, et est-ce que vous y êtes favorable ?
Alors, ça n'est pas nouveau que les Ukrainiens souhaitent rejoindre l'Union européenne. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est de devenir candidat à l'accession. Candidat à l'accession, ça ne veut pas dire que le jour après, vous êtes dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'ils demandent qu'on donne un espoir, un horizon, une raison de se battre aux Ukrainiens, au-delà de protéger leur patrie. Et je crois que c'est symbolique, c'est un geste politique qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que demain l'Ukraine serait dans l'Union européenne. Elle aurait beaucoup de choses à faire. L'Union européenne a beaucoup aussi à faire pour se transformer. Mais c'est donner un espoir à des gens qui sont sous les bombes.
Quand vous dites symbolique, c'est-à-dire que c'est une prise de parole qu'il faut avoir sur le sujet ou vraiment l'acter ?
Au-delà de la prise de parole, qui a déjà été celle d'Ursula von der Leyen, par exemple, la présidente de la Commission européenne, l'acté, c'est l'unanimité des États membres au Conseil qui doit dire « Très bien, nous acceptons de considérer que vous êtes candidat ». Vous voyez que ça n'est pas un saut dans le vide ou un saut dans l'inconnu. Mais c'est un signe. Et je peux vous dire, pour revenir d'Ukraine où j'étais il y a quelques jours, ces gens regardent vers nous, vivent avec les mêmes valeurs, le même mode de vie que nous. Ça ne veut pas forcément dire l'Union européenne demain. Mais nous savons que notre Union va se changer, nous savons que le monde est en train de basculer. Ce qui se passe est un basculement du monde considérable et il est évident qu'on ne peut pas laisser tomber les Ukrainiens.
Vous parlez de symboles, on sait que la symbolique a toute son importance, notamment dans ces périodes-là, mais en ce qui concerne plus concrètement les sanctions économiques qui ont déjà été prises par l'Europe, est-ce qu'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut les renforcer aujourd'hui ?
Alors déjà, il faut les mettre en œuvre. Elles ont été décidées avec une vitesse absolument exceptionnelle. La semaine dernière a été consacrée à je ne sais plus combien de réunions du Conseil. Donc les ministres, les chefs d'État et de gouvernement se sont parlé par téléphone. Les sanctions financières, économiques ont été actées techniquement hier soir. Donc j'allais vraiment dire à la vitesse de la lumière. La livraison d'armes à l'Ukraine est aussi quelque chose que l'Union européenne n'avait jamais fait, l'Union européenne en tant que telle. Si j'ose dire, nous avons passé le week-end là-dessus en nous disant qu'il était temps de faire ce pas en avant. Donc ça va très vite. L'idée, ça n'est pas de faire la guerre au peuple russe. L'idée, c'est de faire comprendre au peuple russe et à Vladimir Poutine qu'ils ont tout à perdre et rien à gagner dans cette guerre. C'est très différent.
Alors justement, c'est peut-être aussi sur ce sujet-là qu'on va pouvoir rebondir à propos de ces sanctions. Bruno Le Maire qui est revenu un peu sur ses propos hier. Alors on a eu du mal à le suivre dans un premier temps. Et il a parlé bien de guerre économique à l'égard de la Russie, qui était important de mener une guerre économique et financière totale à l'égard de la Russie. L'ancien président russe, notamment Medvedev, lui a ensuite répondu sur Twitter « N'oubliez pas que les guerres économiques, je le cite, dans l'histoire de l'humanité, se sont souvent transformées en guerres réelles. » C'est là que Bruno Le Maire a dit regretter l'usage de ce terme de guerre. Est-ce qu'il a commis une erreur ici, le ministre de l'économie ?
Écoutez, il a corrigé ce qu'il avait dit. On est dans la dictature de la petite phrase. Vous pouvez dire des choses importantes, sensées, qui ont un impact, et puis on va venir vous chercher, on va polémiquer sur une petite phrase. Ce que je regrette, moi, c'est la réaction de Dimitri Medvedev, qui montre cette agressivité, cet état d'esprit de guerre froide dans laquelle les décideurs politiques russes sont pour le moment.
Oui, mais vous l'avez dit, l'Union européenne, des sanctions prises très rapidement, des sanctions fortes, pour le coup. Et là, l'impression que ça donne, c'est Bruno Le Maire qui capitule face à la Russie. C'est pas le sentiment que vous avez ? Il n'y a pas de capitulation là-dessus ?
Ah, pas du tout, parce que les sanctions sont prises, elles sont fortes. Nous sommes absolument déterminés à la fermeté. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas une guerre contre le peuple russe. D'ailleurs, je crois que le peuple russe ne comprend pas ce qui se passe.
Donc c'est
même
sur ce point-là vraiment que...
une censure épouvantable. Mais je pense que le peuple russe s'interroge beaucoup sur ce qui est en train de se passer. Et il faut que le message soit clair. C'est la guerre d'un homme. C'est une guerre de choix, pas une guerre de nécessité. L'Ukraine n'a pas provoqué, n'a pas menacé la Russie. C'est Vladimir Poutine et lui seul qui va imposer des souffrances, non seulement à l'Ukraine, mais au peuple russe, à cause de sa décision.
Donc, pas de guerre économique vis-à-vis de la Russie, on l'aura compris, ce sont des sanctions économiques là prises pour faire plier Poutine, c'est ça l'idée en fait.
Pour montrer que le prix de la guerre, le coût de la guerre est beaucoup plus élevé que le coût de la paix. Pour revenir vers la diplomatie et arriver à la paix, c'est ce que nous souhaitons tous.
Sur la question des réfugiés ukrainiens, qu'est-ce que vous attendez de la part de l'Union européenne, de la France ? C'est une question qui se pose maintenant, aujourd'hui. On a pris ces sanctions-là du côté de l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés ? Ils sont près de 700 000.
L'Union européenne a annoncé hier qu'elle mettait 500 millions d'euros pour aider les pays qui accueillent les réfugiés. Il faut voir qu'aujourd'hui, ces pays, c'est d'abord la Roumanie, le pays le plus pauvre de l'Union européenne, qui fait preuve d'une générosité, d'une solidarité absolument éblouissante. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec les Ukrainiens, j'ai aussi beaucoup de collègues roumains au Parlement européen qui sont retournés dans leur pays pour ouvrir leur maison. J'ai une collègue polonaise, une amie en fait, députée européenne polonaise, qui est retournée en Pologne ce week-end pour ouvrir sa maison à des réfugiés. Et c'est pas les pays les plus riches. Mais il y aura beaucoup de réfugiés ukrainiens en Europe. Il faut évidemment que les pays qui les accueillent puissent être aidés quand ils sont en difficulté. Je parlais à des Allemands hier qui disaient « Nous sommes prêts, nous l'avons déjà fait, nous savons le faire, nous devons le faire, c'est un devoir moral. »
On a une auditrice, Anne, qui nous a appelé tout à l'heure sur Sud Radio, parce qu'il y a la question de ces réfugiés ukrainiens, bien sûr, il y a la question aussi des Français, ressortissants français, alors non seulement en Ukraine, avec l'ambassade qui agit là-bas, qui s'est déplacée du côté de Lviv. C'est l'occasion peut-être d'un mot d'en parler, puisqu'on avait aussi le témoin d'une jeune femme qui était restée à la Kiev et qui l'avait vécu un peu comme une trahison, justement.
Écoutez, moi j'étais à Kiev il y a quelques jours. Ouais. L'ambassadeur Étienne de Poncin, je voudrais leur rendre hommage parce que ils sont restés à Kiev les derniers. C'est la dernière ambassade européenne à être restée à Kiev. Ils sont restés aussi longtemps qu'ils ont pu. Il a vraiment fallu peser le pour et le contre en matière de sécurité. Ils pouvaient être menacés. Ils sont restés en Ukraine, ils sont à Lviv et ils continuent à venir en aide à la population française. Vraiment, c'est l'honneur de la diplomatie.
Sur les Français qui sont en Russie et qui veulent revenir en France. C'était le témoignage en l'occurrence de notre auditrice Anne. Comment ça se passe pour eux ?
Jean-Yves Le Drian l'a dit il y a quelques jours, à partir du moment où l'espace aérien européen est fermé aux avions russes, il avait enjoint les Français de passage à revenir très vite en France. On a d'ailleurs vu des étudiants revenir très rapidement en France, même s'ils ne se sentaient pas menacés, mais tout simplement parce qu'ils ne pourraient plus circuler. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des bus pour aller dans les pays
les
Pays baltes notamment, et ensuite pouvoir rejoindre la France.
En tout cas, vous l'avez dit, Nathalie Loiseau, l'Europe a réagi très rapidement face à cette guerre en Ukraine avec ses sanctions. Il y a besoin de cette crise finalement pour découvrir d'une certaine façon cette puissance que pouvait avoir l'Europe.
Écoutez, ça fait 2 ans et demi que je suis au Parlement européen, 2 ans et demi que je m'occupe de défense et 2 ans et demi que je dis vous n'allez quand même pas attendre une guerre pour faire la défense européenne. Eh bien si. Eh bien si, l'Europe avance dans les crises. Tout ce que nous savions qu'il fallait faire, nous le faisons aujourd'hui. Alors si j'ose dire, les idées étaient là, les projets étaient prêts, il a fallu vaincre des réticences. Il y a eu un changement allemand considérable entre un pays qui, il y a encore quelques jours, maintenait un gazoduc avec la Russie et ne voulait pas de sanctions et ne voulait pas de livraison d'armes. Un député allemand me disait hier, l'Allemagne ne change pas de position au gré des gouvernements, elle change de position au gré des événements. Mais elle est au rendez-vous. Et l'Europe est au rendez-vous. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est parce que nous sommes dans l'Union européenne, que nous sommes 450 millions d'habitants, que nous pouvons peser, nous faire respecter.
Vous êtes effectivement à la tête de la commission sécurité et défense au Parlement européen. Cette question aussi, forcément, qui revient sur le tapis, à quand finalement une Europe de la défense? On entend parler depuis des années. Ouais. On commence à esquisser un petit peu ses contours.
Je crois que c'est lent. Le fait que avec de l'argent
de cette Europe de la défense,
avec de l'argent européen, on livre des armes à l'armée ukrainienne. On ne l'avait jamais fait. On le fait. On avait prévu d'adopter dans quelques semaines le premier livre blanc de la défense européenne. Il était quasiment prêt. Il était prêt. On est en train de le réécrire avec beaucoup plus d'ambition. Parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire tourner le dos à l'OTAN. Les pays qui ont rejoint l'OTAN, les pays baltes dont on parlait tout à l'heure, je peux vous dire qu'ils touchent du bois tous les matins en se disant qu'ils ont bien fait de rejoindre l'OTAN. Parce qu'ils sont mieux protégés que la pauvre Ukraine, à qui on avait dit non en 2008 et qui aujourd'hui est envahie. Mais il faut une défense européenne.
Avec une armée européenne.
Avec une capacité de se projeter. L'armée reste toujours nationale parce que la décision d'envoyer des troupes, risquer leur vie, est la décision d'un chef d'État qui est en même temps le chef des armées. Mais une capacité à se projeter ensemble, ça veut dire à avoir les mêmes matériels, à s'entraîner ensemble, à faire des exercices ensemble, être capable de déclencher une opération et d'être opérationnel tout de suite, ça c'est indispensable.
Avec cette question, pour le coup, sur les armes qui sont livrées du côté de l'Ukraine, cette question qui est de savoir aussi qu'est-ce qu'elles vont devenir demain, finalement, ça aussi, c'est une question qu'on se pose déjà ou pas?
Écoutez, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel besoin ukrainien, et là-dessus, c'est l'Union européenne qui rassemble les besoins de l'armée ukrainienne, comment on y répond et comment on achemine ces armes, quelle logistique on met en place. Tout ça est en train d'être mis en place par un militaire français qui est, je ne vais pas dire qu'un militaire est un embryon, mais il est le début d'un chef d'état-major de l'Union européenne. Je voudrais lui rendre hommage ce matin parce que c'est quelqu'un d'absolument remarquable. La logistique se met en place en Pologne. Voilà, quand je vous dis c'est loin de la défense européenne, c'est-à-dire que entre samedi matin et aujourd'hui, vous imaginez le chemin parcouru.
Ouais. Je vous parlais alors de la livraison des armes aussi, puisque c'est l'un des arguments de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur... Ah, ça vous fait sourire.
Ouais. Ah non, pas du tout, ça me met en colère.
Ça vous met en colère?
Oui, parce que c'est un argument du Kremlin.
D'une certaine façon... Alors, pourquoi?
Parce que c'est exactement les éléments de langage de la Russie qui... Et vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison. Je vous renvoie à l'interview de Mme Le Pen hier soir, qui dit la même chose, qui dit « Pas de livraison d'armes, ça ferait de nous des belligérants. » Alors, je vais vous dire une chose. J'ai perdu mon père il n'y a pas très longtemps. Mon père était résistant. Et à la fin de sa vie, c'est là où il m'a raconté sa résistance. C'est là où il m'a raconté quand il réceptionnait des livraisons d'armes des Britanniques pour pouvoir lutter contre l'Allemagne. Et je ne peux pas entendre Jean-Luc Mélenchon, qui était très content quand on aidait les Kurdes, dire qu'il ne faudrait, et qu'on livrait des armes aux Kurdes, qu'il ne faudrait pas livrer des armes à l'Ukraine. Je vais vous dire une chose, Jean-Luc Mélenchon, en 2015, après... l'annexion de la Crimée, après la déstabilisation du Donbass par le même Vladimir Poutine, refuser de l'aide civile à l'Ukraine, refuser une coopération scientifique avec l'Ukraine au motif que c'était des néo-nazis. C'est le perroquet des Russes sur l'Ukraine. Je ne sais pas s'il est anti-Poutine, ce que je sais, c'est qu'il est anti-Ukraine.
Mais vous parlez de votre père résistant, il y a cette aussi idée que l'Union européenne, historiquement, a été fondée sur des notions de paix, justement, de rassemblement, pour faire vaincre la paix d'une certaine façon. Là, c'est ce qu'il disait, finalement, c'est cette orientation vers une Europe plus guerrière, d'une certaine façon.
Bah, la paix, ça se défend. Notre modèle de société, nos libertés, ça se défend. Ce qu'on ne fera pas aujourd'hui... Hier, il y avait des manifestants ukrainiens devant le Parlement européen qui nous disaient « Vous êtes les prochains. Si vous ne réagissez pas aujourd'hui, les prochains, c'est vous. »
Nathalie Loiseau, on va parler aussi de la campagne présidentielle, même si on en parle aussi d'une certaine façon ici avec ses propos sur Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, n'est toujours pas candidat officiel. Comment il peut faire cette déclaration-là dans le contexte actuel? C'est pas évident.
Écoutez, il est chef d'État, chef des armées, engagé dans beaucoup de fermeté et aussi une tentative diplomatique vis-à-vis de Vladimir Poutine, parce que si Vladimir Poutine veut arrêter la guerre, il faut qu'il puisse le dire à quelqu'un. Il faut qu'il puisse y avoir un interlocuteur. Et donc, le président maintient cette relation. Il a raison. J'attends qu'il annonce sa candidature, j'allais dire avec un certain empressement. Mais je pense qu'il l'annoncera avec beaucoup de sobriété. Parce qu'il l'a dit, il restera président... jusqu'au dernier jour de son mandat. Je souhaite qu'il soit candidat. Il n'y a pas beaucoup de suspense sur le fait qu'il va être candidat.
Oui.
Mais on peut très bien comprendre, et je crois que tout le monde le comprend, qu'il est aussi chef de l'État jusqu'au dernier jour.
Ça pose des questions quand même. Ce sera d'ailleurs ma dernière pour conclure. Le président LR du Sénat, Gérard Larcher, qui pointait du doigt le risque d'un manque de légitimité pour un futur président de la République en cas d'absence de vrais débats avant le premier tour. C'est une crainte que vous partagez vous-même, Nathalie Loiseau?
Écoutez, les oppositions ont eu un temps infini pour pouvoir présenter leur programme à un moment où le président était occupé à autre chose. Le résultat, je vous en laisse juge, il n'est à l'évidence pas très convaincant. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde dans lequel Emmanuel Macron a eu à affronter le Covid et maintenant une guerre en Europe. Ça nécessite de l'expérience, ça nécessite des qualités particulières et il les a.
Nathalie Loiseau, députée européenne, membre de la délégation Renaissance et présidente de la Commission Sécurité et Défense Parlement européen. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous.
Merci.
Et dans un instant, la revue de presse, Denis Caro sera avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. On parlera certainement de la finale de la Coupe de France.
Un peu de foot
Nice.
Bah oui, ça va changer avec les Niçois qui sont en finale. Voilà. Exactement.
À tout de suite.